Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et bonne journée et que vous êtes maintenant tranquillement installé chez vous ou en voiture en train de regagner votre maison. Vous êtes à l'écoute de votre libre antenne car comme tous les soirs, vous le savez, 7 jours sur 7 sur Europe 1, eh bien de 22h30 à 1h du matin, c'est la libre antenne. Ce soir, horaire particulier bien évidemment, puisque vous avez pu apprécier la rencontre avec Grand Corps Malade et la réédition de son album. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ce début de soirée. Vous pouvez, vous le savez, dès maintenant, et j'espère que vous saviez que vous pouviez le faire avant, composer le 3921, car c'est toute la journée que vous pouvez laisser vos messages sur ce numéro, sur notre répondeur, donc 3921, 50 centimes d'euros la minute. Pour nous écrire, vous nous écrivez au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, en n'oubliant pas de signer de votre pseudo ou de votre prénom, bien évidemment. Si vous désirez intervenir à l'antenne par rapport à, au témoignage qui est à l'antenne, eh bien, vous nous écrivez à, au 739-21, hein, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, vous connaissez le principe, et vous laissez votre numéro de téléphone afin que Florian ou Julia puissent vous rappeler instantanément. Vous nous écrivez à libreantenne@europe1.fr ou sur notre groupe de parole Facebook La Libre Antenne. Voilà. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, nous allons commencer votre Libre Antenne du jeudi. C'est parti.
La Libre Antenne d'Europe 1.
Et à 23h11, nous accueillons Fatima au 3921. Bonsoir Fatima.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Écoutez, ma foi, ça va bien, je vous remercie.
Bon.
Et vous ?
Écoutez, ça va parfaitement bien aussi. Vous nous appelez de quelle région, Fatima ?
De Picardie, des Hauts-de-France.
Des Hauts-de-France, d'accord. Et quel âge avez-vous ?
50 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi ?
Alors en fait, ce soir, j'ai décidé de prendre la parole sur votre antenne afin de dénoncer, oui, je précise bien de dénoncer un harcèlement moral ainsi qu'une mise au placard que je subis depuis maintenant quelques années au sein de mon entreprise. Donc je souhaitais faire partager cette souffrance, mais avant tout, pas que pour moi, pour ceux qui l'ont subi. Ceux qui le subissent comme moi et ceux qui malheureusement pourraient le subir par l'avenir.
Oui, parce que il faut le dire encore et toujours, ce principe de mise au placard, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui est pratiqué sans vergogne par par certains dirigeants et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre, à traverser. Hein.
Je vous le confirme, effectivement.
Racontez-moi ce qui vous est arrivé et pourquoi c'est arrivé.
Alors en fait, pour vous raconter un peu mon parcours, donc à l'heure actuelle, je travaille pour une enseigne de grande distribution depuis une trentaine d'années maintenant.
Oui.
J'ai été embauchée en juin 1991, en qualité d'employée administrative. J'ai gagné en expérience, bien sûr, le travail paye, et j'ai fini par atteindre le statut de cadre que j'ai à l'heure actuelle.
Oui.
À l'heure actuelle, je suis facility manager. Pour préciser à nos auditeurs et auditrices, un facility manager, je suis une personne qui gère toute la partie d'un entretien-réparation, ainsi que la maintenance de nos supermarchés.
D'accord, ce qui est un poste à responsabilité, et je suppose que vous ne manquez pas de travail.
Tout à fait, il y a énormément de travail, bien évidemment, pour l'entretien du mobilier que nous avons dans nos supermarchés. Tout se passait bien de cette année 1991 jusqu'en 2018. Hein. Vraiment une très très bonne relation avec mes supérieurs hiérarchiques, hein, puisque d'ailleurs ils m'ont fait évoluer. Et puis... En 2018, J'ai été nommée défenseur syndicale et conseiller du salarié.
D'accord.
Par un syndicat qui était rattaché qui est rattaché à mon entreprise. Mmh. Et en fait, le but, les deux statuts m'ont été proposés. Cela me permettait de pouvoir conseiller, assister, mais c'était aussi important de pouvoir apprendre toute la partie code du travail, déjà pour ma propre richesse, mais aussi personnelle, mais aussi pour pouvoir en effet avoir ce côté qui pour moi était pas connu, et puis surtout pouvoir assister, conseiller ou alors aider nos salariés, mes collègues.
C'était quelque part rajouter une corde à votre arc en tant que cadre, de pouvoir accéder à ce code du travail et tous ces conseils pour mieux même connaître les conditions de travail de vos collaborateurs, aller un peu plus loin dans la connaissance globale de ce qu'était leur travail. Donc, jusqu'ici, plutôt quelque chose que l'on peut voir comme du positif.
Tout à fait.
Du point de vue de votre direction, je parle.
Tout à fait. Je dirais bien surtout que ce n'est pas incompatible avec mon métier. Et à partir de là, donc, j'ai estimé faire les choses bien, donc informer mon responsable hiérarchique de la nomination qui allait arriver, parce qu'il n'était pas informé. Et là, malheureusement, c'est à partir de là où la descente aux enfers a commencé.
Cette nomination, Fatima, en fait, oui. Vous, elle vous est tombée dessus comme ça, ou est-ce qu'on vous a un peu poussé à être celle qui devait représenter les salariés, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes présenté de votre propre chef?
Alors en fait, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de souffrance auprès de mon entreprise, et notamment de la direction régionale à laquelle je suis rattachée. Mmh. Énormément de souffrance, les salariés travaillent dans des conditions de travail très difficiles. Et lors de mes visites en supermarché, je m'apercevais qu'en effet, donc je me suis dit, pourquoi pas apporter une aide, une écoute. Et encore une fois, ce n'était vraiment pas du tout incompatible avec mon budget, ça ne l'est toujours pas. Mais c'est venu de moi-même, parce que je voyais beaucoup de souffrance et que je me suis dit tout simplement pouvoir aider nos collègues sans bien sûr avoir une position négative vis-à-vis de mon employeur, bien entendu.
On a vu il y a
quelques mois. C'était plutôt dans le dialogue.
On a vu il y a quelques mois sur, je crois que c'était Zone Interdite, sur M6, un numéro spécial consacré à la grande distribution, donc aux grandes surfaces. Et je me souviens des réactions des téléspectateurs et téléspectatrices par rapport aux conditions de travail, les règles très strictes pour notamment les caissières. Je me rappelle que ça avait fait beaucoup parler, ce numéro de Zone Interdite. Il me semble me rappeler, envoyé spécial aux Zones Interdites, mais en tout cas, je me souviens que les gens avaient été assez saisis entre l'image que cette enseigne donnait et finalement, les conditions de travail et les règles, surtout draconiennes, limites, très limites pour les salariés. Vous vous souvenez de ça ou pas
Oui, il me semble, oui, j'ai en effet vu ce reportage, comme nous tous.
D'accord.
Et puis à partir de là, donc mon responsable hiérarchique a très mal pris les choses en m'informant qu'on ne pouvait pas être cadre et puis avoir une casquette syndicale, ce qui, encore une fois, n'est pas une vérité. Et à partir de là, en effet, ça a été très difficile pour moi, dans la mesure où les relations n'étaient plus les mêmes, alors que j'avais de bonnes relations avec lui. J'étais en manque de moyens, j'étais seule à l'époque avec une secrétaire, beaucoup d'absentéisme de la secrétaire, donc j'étais obligée de pallier à ses tâches de travail ainsi qu'aux miennes. J'avais pas forcément les formations nécessaires, en tout cas, pour pouvoir assumer cette responsabilité. Tout ce que je pouvais demander était refusé. Il y avait vraiment une ignorance à mon égard qui était vraiment flagrante, mais vraiment flagrante. Donc, je me suis aperçue que c'était, j'avais l'impression, et je m'aperçois aujourd'hui que c'est une vérité, que c'était un point de non-retour.
Mais vous avez senti tout de suite le décalage, en tout cas le changement de relationnel entre vous et la hiérarchie. C'était cash investigation. Je rends à César ce qui est à César. Ça n'était ni Zone Interdite ni envoyé spécial, mais c'était un cash investigation qui était consacré aux grandes surfaces. Le fameux reportage auquel je faisais référence. Racontez-moi au début comment ça vient, les premiers incidents, parce que je suppose qu'il y a une escalade, une progression dans tout ça.
Oui, tout à fait. À la suite, donc, dans 2018, bien, j'ai eu une première convocation. C'était la première de l'année, enfin la première de ma carrière, pardon, de 1999 à 2017, vraiment un casier vierge, aucune convocation, absolument rien. 2018, qu'on commence le premier avertissement, première convocation suivie d'un avertissement, parce que c'était une première pour des erreurs que j'aurais commises, mais vraiment rien de cohérent. À la suite de ça, bien sûr, un avertissement que j'ai contesté. En 2019, mon employeur a demandé mon licenciement auprès de l'inspection du travail, parce que quand vous êtes conseiller du salarié et défenseur syndical, vous avez un statut de salarié protégé et vous ne pouvez pas être licencié comme un salarié lambda, on va dire. Absolument passer par l'inspection.
Pourquoi a-t-il demandé que vous soyez licencié ?
Eh bien, parce que dans mon métier de facility manager, je paye ou je valide des factures. Oui. Et il semblerait que j'ai validé des factures validé des factures qui n'étaient pas à valider, c'était des erreurs. Donc j'ai donné les explications lors de la convocation, convaincu voilà mon
de votre
ma
point
hiérarchie.
De votre point de vue, Fatima, est-ce que
oui.
C'était un leurre, en fait, c'était une erreur de leur part, ou alors une pure invention, ou est-ce que vous avez vraiment commis ces erreurs?
Alors, pour être honnête, je n'avais pas été formée à ce logiciel, commencer.
D'accord.
Secondo, j'ai reçu des factures que j'ai analysées et contrôlées comme je le fais encore aujourd'hui, et vraiment, j'ai vu aucune erreur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est dans notre système, je reçois des factures, je les vérifie, en fait, je les valide et je les communique à mon responsable qui, lui, est payeur.
D'accord.
Donc, mon responsable hiérarchique, à l'époque, a payé ses factures et, visiblement, il n'y a vu aucune erreur.
C'est-à-dire que lui doit opérer une double vérification.
Une double vérification, tout à fait.
D'accord. Donc, cela veut dire que si vous avez fait une erreur, que lui en a fait une aussi.
Tout à fait.
D'accord.
Et donc, à la suite de ça, donc, j'ai apporté toutes ces explications. Ça n'a pas convaincu. Mon directeur régional a demandé ma demande de licenciement. L'inspection du travail a effectué une douloureuse enquête de 3 mois. J'en ai encore le souvenir, c'était de mars 2019 à juin. Début juin, le verdict, je suis innocentée. L'inspection du travail refuse ma demande de licenciement, tout simplement parce qu'elle m'a innocentée, qu'elle a estimé en fonction des contrôles et de tous les points de vérification qu'elle a effectués que je n'y étais pour rien.
Qu'entendez-vous par une douloureuse enquête ?
Vous savez, quand vous avez une inspectrice qui vous convoque à l'inspection du travail,
oui.
C'était une première pour moi. Déjà, une demande de licenciement, ça a été un choc. Ensuite, j'ai été questionnée, on m'a demandé de justifier toutes mes tâches de travail, de toutes les manières, comment je manageais mes équipes, de quelle manière je procédais pour travailler. J'ai eu vraiment un audit, si on peut se permettre de dire ça, mais vraiment, c'était vraiment une enquête en profondeur sur toutes mes tâches de travail. J'étais dans le doute en me demandant, est-ce que j'ai pas commis moi-même des erreurs ? J'en étais arrivée à un point où je ne savais même plus si moi-même j'avais commis des erreurs ou pas.
De toute façon, pour peu qu'on soit quelqu'un qui ne soit pas sûr de lui-même, hein, on est beaucoup à ne pas avoir confiance à 100% en nous. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la qualité d'un salarié, dans n'importe quel domaine qu'il soit. Quelqu'un qui doute va faire attention, va être un peu plus exigeant. Et c'est souvent le doute qui fait avancer. Hein, mais je vois combien... ce doute lors de cette enquête a dû révéler chez vous des peurs, hein, des angoisses.
Oui, des peurs. Et puis j'en arrivais à plus dormir. J'étais très inquiète, à peur de me faire licencier pour, en toute honnêteté, pour des erreurs qui m'ont été reprochées, mais que j'ai expliquées et que vraiment je n'avais rien vu. Et puis il semblerait qu'il n'y avait pas d'erreur. En tout cas, c'est ce qui en a conclu l'enquête de l'inspection du travail. À la suite de ça, mon employeur ne s'est pas arrêté là. Il m'a mis 8 jours de mise à pied, c'est la peine maximale au sein de mon activité, parce que je pense qu'il fallait sanctionner pour sanctionner malgré tout. Malgré que j'ai été innocentée, j'ai quand même pris 8 jours de mise à pied.
Là, en fait, on parle tout de même d'un acharnement. Hein. Était-il en droit de vous mettre ces 8 jours? Est-ce qu'il avait le droit de faire ça?
Visiblement, oui. Oui, parce que l'inspection du travail s'arrête uniquement à l'acceptation ou au refus du licenciement.
D'accord.
Mais quand ça concerne une sanction disciplinaire, voilà, ça ne peut pas. Voilà, l'inspection du travail n'y peut rien.
Bon, donc
Moi, j'ai pris quand même 8 jours.
oui, on peut se douter que en agissant comme ça, votre employeur allait continuer de plus belle, et donc cette mise au placard, elle ressemble à quoi en fait depuis?
En fait, à la suite de ça, sur l'année 2019, donc un recrutement de mon collègue actuel. Donc, mon employeur a effectué le recrutement d'une personne qui a le même statut que moi aujourd'hui. Quelques mois de formation est arrivé l'année 2020. Là, nous avons eu la crise sanitaire du Covid-19.
Oui.
Donc, la période du 17 mars au 22 mai, j'étais absente dans le cadre de la fermeture des écoles. Je n'avais pas d'autre moyen que de m'occuper de mes enfants. J'ai demandé le télétravail qui m'a été refusé. Donc, je m'étais dit, bon, je vais quand même travailler en télétravail et je vais quand même m'occuper de la scolarité de mes enfants. Mais voilà, cela m'a été refusé. Et quand j'ai repris mon activité le 25 mai 2020, j'ai eu un entretien avec mon responsable qui m'a informé qu'il n'était plus nécessaire que je prenne mes responsabilités, enfin, qu'il n'était plus nécessaire plutôt que j'effectue des tâches à responsabilité de facility manager,
Oui.
qu'aujourd'hui, mon collègue avait pris le relais de tout le management du service. Qu'aujourd'hui, il me demandait de rester au bureau, d'effectuer quelques petites factures. Il m'a demandé aussi de quitter mon bureau de cadre pour aller dans le bureau de la secrétaire, que j'ai refusé. J'ai refusé d'office.
Oui.
Il m'a informé que j'étais prochainement convoquée de nouveau. Et là, j'ai éclaté en sanglots parce que je ne comprenais pas. J'ai passé 2 mois et demi de confinement très difficile. Enfin, je suis restée comme la majorité des personnes dans la première vague de confinement chez moi,
Oui, comme beaucoup,
à
beaucoup,
être dans
beaucoup de
la tête
salariés.
uniquement. Pardon?
Comme beaucoup, beaucoup de salariés, je
Tout
disais.
à fait, comme beaucoup de salariés, j'avais hâte de reprendre mon activité et quand je suis revenue, ben, j'ai eu droit à une mise au placard totale.
Alors, on va voir les conséquences de cet acharnement sur vous, Fatima. On va faire une petite pause et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez continuer à appeler le 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 739-21, suivi du mot nuit. Et quand lettres majuscules suivies dans l'espace, comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir, avec un tout dernier SMS d'une personne qui malheureusement n'a pas signé, mais qui vous demande, Fatima, si vous pouvez changer et passer une VAE, une validité et acquis des expériences, qui vous permettrait de bouger, car visiblement dans la grande distribution, il y a une embauche permanente, y compris au niveau des cadres, visiblement. Est-ce que vous y avez pensé?
Franchement, non. Jusqu'à présent, je n'y ai pas pensé parce que j'aime mon métier. J'aime l'entreprise pour laquelle je travaille. J'ai donné 30 ans de ma vie
Oui.
et je n'ai pas de regrets. C'est juste la hiérarchie, mon responsable hiérarchique et mon directeur régional qui sont là depuis quelques années, qui ont tout chamboulé dans ma carrière professionnelle.
Oui,
J'ai
mais
connu tous les dires. Oui.
Fatima, pardonnez-moi de vous interrompre, mais
Oui.
ces gens-là, ils vont être là pendant un moment. Ils vont
Vous
rester
savez, tout est
là.
possible.
Oui, mais est-ce que, alors, parce que êtes-vous prête à tenir à ce rythme-là un moment? Parce que c'est éreintant. Vous savez qu'aujourd'hui, en face de vous, C'est un grand classique. Vous avez des joueurs de poker, des animaux à sang-froid qui n'ont que faire de ce que vous allez devenir, du burn-out que vous allez faire, de la dépression que vous allez faire et de toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur votre famille, hein, puisque vous avez deux enfants, vous m'avez dit.
Oui.
Sur votre vie de femme. Si je vous pose cette question, c'est parce que il faut bien que vous évaluiez les conséquences dans la durabilité de cette situation. Je trouve que cette auditrice ou cet auditeur qui nous soumet le fait de bouger, et surtout dans un secteur qui embauche pas mal, ça n'est pas à balayer d'un revers de main. Je pense vraiment qu'il faut que vous évaluiez bien votre capacité à résister, parce que aujourd'hui en face de vous, vous avez visiblement des collaborateurs plus haut que vous hiérarchiquement, qui sont prêts à vous dégommer clairement, et qui sont prêts à vous détruire, qui vous prennent pour une ennemie du système, et qui peuvent aller très loin dans ce petit jeu. Or, il n'y a pas l'inspection du travail qui va vous protéger. Entendez par là, Fatima, qu'il n'y a pas de justice lorsque, dans une entreprise, des cadres comme ça commencent à agir, vous voyez, à l'abri de la lumière, font leur compte sous, vont vous... C'est possible, hein, ce dont je vous parle, vont vous tendre tout un tas de pièges, vont vous mettre au placard encore plus. Il faut que vous fassiez attention à vous dans une situation telle que celle-ci. Bien évidemment, je sais que vous avez passé 30 ans et que c'est injuste ce que vous vivez là. Mais le problème, c'est que parfois, on peut s'acharner parce qu'on pense que cette situation injuste va s'inverser parce que on a peut-être tendance parfois à être un peu naïf en pensant que les méchants vont être punis à la fin. Or, si on regarde autour de nous et qu'on fait l'analyse de ce monde en ce moment, ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup plus de méchants qui sont à des postes de décideurs et finalement, est-ce que ce ne sont pas les méchants qui osent sans problème, pour grimper les échelons, marcher sur la tête des autres et qui y arrivent? Est-ce que ça n'est pas prendre un risque de vous battre contre ça?
Si, c'est en effet un risque, mais la vie de tous les jours est un risque.
Oui, oui, oui.
Après,
si je vous dis ça, c'est que je connais bien ce système de la grande distribution. Il est redoutable. Ce milieu de la grande distribution, il est redoutable. Les gens à qui vous avez affaire sont redoutables. Il y a d'autres milieux où on est plus exposé, vous voyez, où on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais là, vous êtes dans un milieu où ces personnes-là peuvent vous faire très mal, en fait. Mais je pense que vous en êtes consciente, en plus.
Oui, j'en suis parfaitement consciente. Après, c'est vrai, comme vous l'avez dit, hein, je suis d'une personne qui a un fort caractère, qui a de la personnalité. Néanmoins, ce n'est pas pour cela que je ne suis pas insensible. Je prends soin de moi, en tout cas du mieux que je peux. Mm-hmm. Mais je me bats, je pense, pour une justice. Et comme je vous l'ai dit avant de débuter cette émission-là, c'est vrai que si j'ai pris l'initiative de prendre la parole sur votre antenne, c'est parce que j'ai pensé aussi à ceux qui l'ont vécu.
Oui.
Ceux qui le vivent, mais ceux qui malheureusement pourraient le vivre. Et les expériences des uns et des autres peuvent nous apporter. Maintenant, aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, je suis suivie par un psychiatre depuis plus d'un an. Et ça m'aide énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis certainement pas sortie de mes peines. Aujourd'hui, je fais acte de présence au sein de mon entreprise.
Mais oui, parce que votre entreprise et ceux qui la dirigent, et je dirais, ont les moyens de vous payer encore des mois, voire des années, sans que vous n'ayez rien à faire de la journée, en vous obligeant à venir tous les jours et en guettant la faute, c'est-à-dire le jour où vous allez arriver en retard ou le jour où vous n'allez pas venir parce que vous allez craquer. Parce que ces méthodes-là, elles sont bien connues et ils ont les moyens de le réaliser. Dans une petite entreprise ou moyenne entreprise, les patrons ne peuvent pas trop se permettre ce genre de comportement parce qu'il y a toujours un équilibre qui peut être fragile économiquement. Et avoir un salarié cadre qui, tous les jours, qu'on met comme ça au placard, Mais moi, je peux vous dire que j'ai connu des gens qui ont été mis au placard comme vous pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. La majorité a fini par partir en burn-out, rincé en dépression. Et puis, il y en a quelques-uns que je connais, dont vous faites peut-être partie, qui ont refusé ça et qui se sont dit « Mais non, moi, tant que je n'ai pas gain de cause, ou tant, je vais au bout de mon truc. » Et qui ont fini par obtenir un départ dans des conditions très avantageuses pour eux. Donc, quelque part, ils ont gagné une sorte de combat puisqu'ils sont partis avec un chèque conséquent. Mais majoritairement, les gens que j'ai connus mis au placard comme ça, c'était vraiment très dur, quoi. C'était très dur, très dur.
Et je vous confirme, Olivier, c'est dur, mais je suis assez déterminée.
Mmh. Mais vous en avez parfaitement droit.
Voilà, je suis assez déterminée et je pense que la justice vaincra vraiment parce qu'aujourd'hui, c'est non seulement c'est malhonnête, mais en plus, comme je l'ai dit et je le redis, avoir une casquette syndicale n'est pas incompatible avec son métier. À partir du moment où on le fait bien, on est honnête, on fait les choses correctement.
Ouais.
Et avoir une casquette syndicale, ce n'est pas être contre son employeur, au contraire.
Et puis je rappelle que le syndicat dans une entreprise, c'est quelque chose de très important d'un point de vue de l'équilibre et de la bonne tenue des règles dans le travail. Un syndicat, ça permet tout de même de protéger les salariés et en même temps d'exercer justement le respect de ces règles afin que les gens qui sont dirigeants, les cadres notamment, hein, ne fassent pas n'importe quoi avec ceux qui sont en dessous.
Et, voilà, donc c'est vraiment pour le dialogue.
Complètement. À la base, c'est le syndicat a été créé pour ça, pour dialoguer, pour réparer, pour trouver des solutions.
Voilà, c'était mon but. Et c'est toujours mon but parce que j'ai toujours ces deux mandats. Je les exerce du mieux que je peux. Et à aucun moment, je n'ai à aujourd'hui, depuis que j'ai été nommée, créé un conflit avec mon entreprise. À aucun moment.
Ouais, ouais. Est-ce que vous vous sentez épaulé est-ce que des salariés, des collaborateurs vous épaulent ou est-ce qu'ils sont dans la peur de parce qu'ils vont manifester leur soutien, leur solidarité avec vous, ont peur d'être eux aussi réprimandés ou mis au placard?
Alors au sein de ma direction régionale, c'est vrai qu'il est très difficile pour... mes collègues ont peur, en effet. Mes collègues ont peur, même si j'ai du soutien de quelques collègues. Mais c'est vrai que c'est timide parce que la crainte et la peur est là. À partir du moment, vous savez, on peut dire que j'ai un bandeau rouge sur le front qui est issu de tout le monde. Vous savez, j'ai un téléphone professionnel. Hein, je suis cadre, donc j'ai un téléphone professionnel. Mon téléphone sonnait en permanence. Et depuis mon retour de mai 2020, mon téléphone ne sonne plus. Je ne suis plus appelée par les supermarchés. Je ne suis plus appelée par mes collègues.
Vous êtes blacklistée.
Voilà, je suis blacklistée. Tout à fait.
Et
ça,
horrible.
Je voulais dire haut et fort. Et c'est vraiment parce que c'est une interdiction que je ne peux pas le dire, mais je vous assure que je suis blacklistée. Voilà, c'est exactement les termes. Donc je souhaitais apporter mon témoignage parce que j'estime qu'à un moment, il faut pas se taire, mais il faut dire les choses. Et puis je pense aussi, je ferai un petit clin d'œil à ceux qui m'écoutent, que j'ai informés, notamment mon entourage et les amis. Je pense à tous ceux qui font partie de ma direction régionale et qui sont en grande souffrance à l'heure actuelle ou depuis quelques années ou quelques mois, qui sont bien en arrêt maladie chez eux ou bien en accident de travail ou bien malheureusement qui se sentent mal. Voilà, je pense aussi très fortement à eux et je pense aussi bien entendu à tous ceux que je ne connais pas.
Et c'est Jean au 739-21 qui vous envoyait tous ces SMS, il a fini par signer, bravo Jean, qui vous dit d'abord qu'une VAE se fait sans obligation de quitter l'entreprise il vous encourage à réfléchir Fatima car il s'inquiète de vous voir arriver à consulter un psychiatre et il vous dit qu'une VAE permet de se valoriser en plus, donc si vous y avez droit, bien évidemment si on vous l'accorde, hein, je ne sais pas si
voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il faudrait que ma hiérarchie accepte de pouvoir trouver une solution avec moi parce que visiblement, à l'heure actuelle, ils ne sont pas dans l'ouverture d'esprit et ils sont plutôt dans la répression et dans la sanction.
Bah, quand on fait référence à ce cash investigation qu'on a vu, je crois que ce qui a vraiment marqué les gens, c'est cette interdiction pour les caissières d'aller faire pipi et d'avoir des heures, oui, des heures spéciales pour aller aux toilettes. Je pense que ça a choqué beaucoup de personnes, en fait. Il y a eu une... Alors bon, après, ça, c'est dans l'inconscient général, avec toutes ces pubs qui représentent une enseigne sympa, où tout roule, où tout est fait pour que le client soit... Bon, et ça n'est pas spécialement cette enseigne à laquelle vous faites partie, ce sont toutes les enseignes, hein, parce que les règles sont très dures dans la grande distribution, quoi qu'on en dise. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention des gens, c'est cette sorte de dictature, hein, des horaires et... Voilà, ça ressemblait à l'enfer, hein, ces conditions de travail. Donc, bon, je pense aussi qu'il faut des personnes comme vous pour se battre et pour dire non à tout ça, Fatima. Donc, je vous souhaite bien évidemment bon courage. Et n'hésitez pas à nous faire appel si la situation s'aggravait et si vous décidez de passer à la vitesse supérieure et de révéler certaines choses en plus. N'oubliez pas que nous sommes là.
Je n'hésiterai pas. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, de m'avoir donné la parole.
Je vous en prie.
Je remercie tous les auditeurs et auditrices qui m'ont écouté.
Et ils sont nombreux à vous encourager ce soir au 739-21. Fatima, passez une bonne soirée. On vous embrasse.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Une bonne soirée. Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1. Olivier Delacroix.
23h42, vous êtes sur Europe et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à appeler Florian et Julia avec Laurent, notre réalisateur. Ils attendent vos appels et nous sommes ensemble encore un bon moment, chers amis. On accueille Valentine maintenant au 39-21. Bonjour Valentine, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous?
Bonsoir.
Valentine?
Du Loiret.
Du Loiret. Et quel âge avez-vous?
J'ai 59 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous nous parler, Valentine?
Alors, je voulais vous parler de la prostitution des femmes divorcées de plus de 50 ans, voilà,
d'accord.
Dont malheureusement je fais partie. J'ai divorcé en 2004 suite à des violences conjugales. Je coupe le mot volontairement, hein. J'ai réussi à reprendre ma vie en main et à travailler.
Oui.
Jusqu'à peu près en 2018. L'erreur que j'ai commise quand j'ai divorcé, c'est que mon ex-mari est fonctionnaire et qu'on m'a expliqué que si je laissais ma plainte, il perdait son boulot. Donc, je n'ai pas demandé de prestations compensatoires.
D'accord.
En 2018, je perds mon job. Malgré une formation de téléconseiller, je n'ai pas retrouvé de travail. Et je me suis retrouvée avec des dettes.
D'accord.
Comme je perçois ce qu'on appelle l'ASS, c'est-à-dire l'allocation spécifique de solidarité, je n'ai donc que 501 € par mois pour payer la traite de la maison qui est de 414 et les charges courantes qu'on a tous, eau, électricité, téléphone. Comme j'avais des petits moyens, j'ai acheté un espace très vieux, très ancien, qui m'a coûté plus de 6 000 € de réparation d'auto. Et du coup, je me suis noyée financièrement,
oui.
Il n'y a pas d'autre mot. Et un jour, j'ai deux de mes anciennes collègues de boulot qui me sortaient. C'est-à-dire qu'avec leur ticket resto, on allait au restaurant, etc.
Ouais.
Et puis, bon, elles ont toujours su que sexuellement, j'étais quelqu'un qui était quand même pas, voilà,
pas
fermé, on va dire. Voilà, pas prude. Et il y en a une des deux qui me dit, mais joins l'utile à l'agréable. Demande des petits cadeaux. Donc, j'ai mis une petite annonce. Et comme j'avais besoin de payer rapidement les dettes auprès de mon garagiste quand même, parce que ça me mettait mal à l'aise quand même d'avoir des sommes pareilles, j'ai donc mis une annonce avec un petit prix. Ce qui fait que pendant, on va dire, un an et demi, j'ai fait ce que moi j'appelle de l'abattage, entre 6 et 10 personnes par jour. Voilà.
Ah oui, carrément.
Le but étant de payer mes dettes et d'arriver à m'acheter une voiture potable. J'y suis arrivée. J'ai pas fait de mauvaises rencontres, enfin à part deux fois, mais bon, sur le lot, c'était quand même des gens gentils, charmants, agréables, voilà. Mmh. Et donc, quand la situation a un peu ronronné, on va dire, d'abord, j'ai augmenté mon tarif. Les prix augmentent aussi là-dedans. Je reçois moins. Voilà. Je reçois mieux, mais moins. Voilà.
D'accord. Ça veut dire que vous avez créé une clientèle, en fait.
Oui.
Des habitués.
Oui. Donc, voilà. Mais l'idée de départ était de payer mes dettes, d'acheter un nouveau véhicule et de reprendre ma vie lambda normale. Enfin, normale. Je ne sais pas si on peut dire normale, mais enfin, voilà. Ma vie que je connaissais.
Si.
Et le problème, c'est que j'en sors pas. Voilà, j'ai beaucoup cherché un emploi, etc. Et en fait, je me suis auto-piégée. Alors, j'ai aussi découvert par mes clients que, entre autres, sur le site sur lequel je suis, il y a... moi, c'est ce qui m'a mis le plus le bourdon et qui fait que je suis en... Là, je suis actuellement pas bien avec cette histoire. C'est que j'ai découvert, donc, qu'on était nombreuses au-dessus de 50 ans. Et dont, entre autres, une ou deux personnes dans le Loiret qui ont plus de 70 ans. Alors, on parle toujours de la prostitution des jeunes filles, ce qui n'est pas non plus, enfin, je veux dire, voilà. Mais moi, j'ai découvert que les femmes de plus de 50 ans qui n'ont plus d'enfants et qui sont dans une précarité financière, elles font comme moi, quoi.
Oui.
Je me suis piégée et j'arrive pas à en sortir. Quoi. Alors, je tombe pas sur des gens désagréables, hein, c'est pas ça. Hein. Mais je me vois pas faire ça encore 10 ans. Enfin, comme la dame, là, qui a 72 ans, ça me...
Oui, ça vous angoisse.
Ouais.
Ça vous fait peur. Alors, vous êtes en train de vous piéger. De vous auto-piéger, comme vous dites, parce que...
Ouais.
Est-ce aussi parce que vous goûtez à une vie plus confortable qu'avant avec cette activité?
Ouais. Sauf que j'ai pas de moyen de la remplacer. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai pas de solution de remplacement. C'est-à-dire que si j'arrête ce que je fais, je reviens à 501 €, ce qui fait que si demain je dois passer mon contrôle technique, je peux pas. Si je dois changer mes pneus, je peux pas. Voilà, donc le plan B reste un plan B et j'arrive pas à trouver un plan A, quoi. Parce que comme je suis considérée par les DRH comme âgée, vu que j'ai 59 ans, que dans leur petite tête à 60 on est à la retraite, j'ai pas d'embauche. Donc c'est un piège dans lequel je me suis mise. Je me disais, je vais arrêter au bout d'un an, et demi. Et le problème, c'est que si j'arrête financièrement, je retombe dans des dettes qui vont être pharaoniques. Alors, sans faire d'excès, hein, juste avec le moindre, juste avec la moyenne de ce que j'ai à sortir, en fait.
Aujourd'hui, en fait, Valentine.
Ouais.
Vous me parliez au début d'une fréquentation dans votre activité de 8 à 10 personnes par jour.
Au tout début, quand j'ai commencé.
Tout début, lorsque vous avez commencé. Aujourd'hui, ça vous rapporte combien par mois?
Alors, par mois, je ne sais pas. Alors, normalement, je demande 40 € pour l'heure. Mmh. Par exemple, donc là, j'avais eu personne pendant 5 jours. Là, j'ai eu 2 personnes aujourd'hui, donc ça fait 80. En théorie, demain il y en a 2, voilà. Tout en sachant que lundi et mardi j'ai un artisan qui vient pour mes volets. Du coup,
oui, donc c'est assez aléatoire, voilà. En fait.
C'est ça, complètement. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus, enfin, je veux plus recevoir autant.
Oui.
Donc je reçois moins et peu. De manière à ne pas tomber financièrement dans une trop grosse précarité, à éventuellement, comme là, pouvoir budgéter les volets qui tombaient en ruine, voilà. Mais oui, j'essaye de moi recevoir, enfin, de mettre une, d'essayer de commencer à mettre une distance. Je sais pas si je suis très très claire.
Si, 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 bien évidemment.
Mais voilà, c'est alors j'en sors pas, mais j'essaye de mettre une distance de manière à moi recevoir, à essayer d'avoir une vie. Parce que c'est pareil, quand on reçoit quand même tous les jours et qu'on est chez soi et machin, en fait, on fait plus rien, quoi.
Oui.
À part les courses, on fait plus rien, on voit plus personne. Voilà. Donc oui, du coup, j'essaye de sortir de chez moi, de bouger, de faire des choses et de ne plus être constamment en train de rechercher absolument à ce que quelqu'un vienne. Donc voilà, je pense que je suis dans une démarche de sortie, mais... Je suis pas certaine, mais surtout ça me pèse, quoi. C'est-à-dire que maintenant, recevoir, ça m'énerve, ça m'ennuie. Autant au début j'étais dans une fougue, voilà, ça me gênait pas. Autant voilà, au bout de 3 ans, j'en ai marre, quoi.
Oui, oui. Aujourd'hui, en fait,
je suis fatiguée en plus.
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr que vous devez être fatiguée. Votre corps doit être fatigué en plus.
Ouais, mais c'est plus, je crois que c'est plus psychologique.
Dans
que
la
je suis
tête.
Fatiguée.
Dans la tête.
Ouais. Mais plus que physiquement.
Mais vous voyez, en fait, malheureusement, ce que vous êtes en train de nous expliquer ce soir répond à une situation pour certaines femmes entre 60 et 70 ans, femmes seules comme ça, qui n'ont pas de, qui n'ont pas de retraite, qui ont juste cette allocation de 501 €.
Ouais. Ou des toutes petites retraites de 600 euros, parce qu'a priori, la petite dame de 72 ans, c'est ça, elle est dans les 600 ou 700 euros, et ça fait trop juste, quoi.
Mais c'est terrible, hein, ce que vous me racontez, et je me retrouve un peu bloqué dans ce que je pourrais vous dire, parce que je trouve ça horrible qu'on ne vous propose pas de boulot, que vous ne puissiez pas trouver de boulot alors que vous en cherchez.
Ouais,
et que vous soyez donc maintenu là-dedans, en fait.
Oui, c'est ça. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes, dont une pour laquelle j'avais travaillé avant 2018. Et donc, cette année, entre autres, je lui ai rendu des services, voilà. Et alors, en plus, le verbaliser, j'ai du mal. Donc, je lui avais fait un courrier que j'avais mis chez elle, etc. Et depuis... cette personne qui, en plus, connaît du monde au niveau régional, etc., qui a une entreprise, qui sait ce que je suis capable de faire. Hein. Depuis que je lui ai écrit, il n'y a plus de son, plus d'images. Voilà, j'ai été enlevée de Facebook. Enfin, vous voyez, dès qu'on dit ce qu'on fait,
oui.
J'aurais une clochette avec la peste. Je pense que ça serait pareil, quoi. Voilà, les portes se ferment. Parce que j'ai essayé auprès de deux personnes que je savais qu'il y avait des possibilités, ne serait-ce que de faire passer mon CV auprès de certaines personnes. Non, non, non. Quand je leur ai dit, voilà, c'est fini. On n'existe plus. Alors, je sais que les autres le vivent, quoi. Mais moi, ce qui me peine, c'est que voilà, on se retrouve avec des femmes de plus de 60 ans. Qui pourrait avoir une autre vie quand même, parce que bon, déjà ouais. Quand on fait ça à 20 ans, c'est pas le top, mais bon, à 60, on espère autre chose, quoi. Enfin,
au 739-21, un auditeur ou une auditrice vous demande si vous avez fait appel à une assistante sociale compétente pour essayer de peut-être de faire le tour des solutions possibles. Pour vous, si vous avez fait appel à des associations qui éventuellement pourraient vous aider
Alors, au niveau associatif, j'ai la banque alimentaire, hein, c'est pas le souci. Le souci, c'est que... alors, je ne suis pas surendettée. Alors, c'est un mal et un bien, c'est-à-dire que quand on est en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de 780 euros, on n'a pas le droit au crédit à la consommation. C'est-à-dire qu'on peut faire des demandes, hein, on se fait rejeter.
Oui, oui, non, mais c'est coup, le cul-de-sac
voilà,
total.
Alors, c'est bien, parce que ça, dans un sens, ça protège. Moi, j'avoue, hein, ça protège, ça évite de s'enfoncer aussi. Mais quand j'avais fait appel à mon assistante sociale, elle m'avait dit « Vous n'êtes pas surendettée. Voilà, c'est-à-dire que le crédit maison n'est pas considéré comme un endettement. Je n'ai pas d'autre crédit que le crédit de la maison. Bon, il me reste 3 ans à payer, donc j'en vois beaucoup quand même. Mais voilà, et quand j'ai cherché à déménager, parce que j'ai quand même cherché aussi à partir, quand on a cherché des logements, en fait, moi, je paye 414 euros. Alors, la maison n'est pas grande, hein, elle fait 48 mètres carrés, j'ai un terrain de 1200 mètres. Et les loyers que je trouvais sur la région où je, enfin, la région où je suis, c'était dans les 600 à 620 euros.
Oui. Vous
Donc c'est ce que me
êtes
dit.
propriétaire ou pas?
Alors je serai propriétaire dans 3 ans quand j'aurai fini de payer mon crédit,
Oui.
mais oui, on va considérer que oui. Et l'assistante sociale m'avait dit ne bougez pas de chez vous, quoi. Ne bougez pas. À 414 euros, elle me dit, voilà, on ne trouve pas de loyer moins cher pour vous. Et en plus, vous serez au plafond de l'APL, c'est-à-dire que j'aurai 294 euros et je paierai 600, enfin 600 euros moins 294. Donc, en fait, voilà, quand on a fait les calculs, elle m'a dit, non, non, ça ne vaut pas le coup de partir et de déménager, quoi. Voilà, donc, du coup, tant qu'elle n'est pas finie d'être payée, je bouge pas d'ici, quoi. Enfin, voilà, il me reste 3 ans à la payer. Je paye un loyer de 414, qui est peanuts, quoi. Enfin, bon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la maison et le bout de terrain que j'ai pour 414 euros, quoi. J'avoue que là-dessus, bon. Mais j'ai fait les démarches. En fait, j'ai fait les démarches au préalable, avant de me lancer là-dedans. C'est-à-dire que j'ai essayé de tirer au possible toutes les sirènes d'alarme, sauf que. Voilà, je ne suis pas surendettée, j'ai plus d'enfants, j'ai pas d'enfants à charge. Donc à partir de là, ben en France, il n'existe rien.
Oui, vous faites partie de ces femmes seules, en fait, de plus de 50 ans, qui sont un peu comme ça, sur le bas-côté, qu'on laisse
C'est ça.
sans proposition de solution, et c'est bien triste. On va marquer une pause, si vous le voulez bien, Valentine, et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord?
OK.
À tout de suite.
Europe 1. La libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes avec nous jusqu'à 1h du matin et c'est la libre antenne d'Europe 1, chers amis. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir. Pour vous, Valentine, Laure nous demande si vous n'avez pas pensé à demander une pension à votre ex-mari, voire une prestation compensatoire. Est-ce que
Alors,
vous avez pensé à
oui.
ça?
Alors, j'ai pensé, sauf qu'a priori, c'est trop tard. C'est-à-dire que j'ai divorcé en 2004. À l'époque, j'ai pas voulu. Je pense, enfin. Je travaillais, donc je pensais pouvoir lui racheter la part de la maison. Et du coup, je considérais que je n'avais pas besoin. Sauf que là, en 2018, quand j'ai fait la demande, le tribunal m'a répondu que c'était trop tard. Voilà. C'est-à-dire que comme il
Donc
n'y a pas
on vous a
d'enfant.
déjà répondu là-dessus.
Ouais. Alors, comme il n'y a pas d'enfant, ça serait une pension alimentaire pour un enfant, ça serait différent. Ça serait recalculable, etc. Mais là, comme j'ai jamais fait de demande préalable, en fait, il n'y a pas possibilité, vu que ben ça fait quand même 20 ans presque, il n'y a plus possibilité justement de prestations compensatoires. Et en fait, c'est ça qui m'a mis dans la mouise, hein. C'est-à-dire que le jour où j'ai refusé la prestation compensatoire, c'est là que je me suis mis dans une situation à laquelle je ne pensais pas me retrouver 15 ans après, quoi. Voilà. Donc. Bon, je peux pas refaire l'histoire, malheureusement.
Non, malheureusement.
Et j'ai vraiment, enfin, Avant de me lancer dans ce que m'avaient proposé mes deux amis, un peu sur le ton de la rigolade, j'ai cherché des pistes, j'ai cherché des solutions. Je vous dis, j'ai même fait une formation, j'ai eu un titre professionnel. Je me suis dit, bon, dans le téléconseil, il y a du boulot. Et non, 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 non. Alors après, il y a l'histoire de l'âge. C'est-à-dire que, voilà, j'ai 59 ans et... Le monde de l'emploi après 45 ans est très compliqué dans notre pays. Voilà. Donc, même si on est en forme, même si on ne voit pas ma tête au téléphone, j'ai 59 ans.
Mais c'est, voilà, c'est assez terrible, hein, ce que vous me décrivez. C'est terrible.
Et
vous n'avez pas cherché du côté de l'aide à la personne, parce que c'est un secteur où il y a vraiment une demande d'embauche.
Ouais. Alors, j'ai oublié de vous préciser que suite à mes petits problèmes avec mon ex-mari, je me suis retrouvée atteinte de fibromyalgie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une maladie auto-immune. Donc, outre le côté douleur permanente, au fil des années, j'ai eu des petits soucis de cognitifs. Mais surtout, je ne peux plus rester debout longtemps. Donc c'est vrai que l'aide à la personne, c'est compliqué parce que bah il y a quand même du ménage, il y a des carreaux, des choses comme ça, et c'est vrai que c'est pour ça que je m'étais, parce que moi mon métier de base c'était le secrétariat, c'est quand même quelque chose qui est qui est bouché, voilà. Donc c'est pour ça que je m'étais plus dirigée vers quelque chose où j'étais assise, où j'avais pas de navette à faire, à marcher, etc., plutôt qu'effectivement là-dedans. Mais parce que c'est pareil, avant de me lancer, j'ai aussi fait des petits boulots. Alors, la personne qui vous dit de manger la choucroute qui est en promo dans les supermarchés, j'ai fait des visites mystères dans les garages, des trucs comme ça. Des tas de petits boulots pour arriver à avoir un revenu qui me permette au moins de payer ce que j'ai à payer tous les mois, c'est-à-dire 780 € à sortir, quoi, minimum. Voilà. Donc, je dis pas que je sais tout, hein, c'est pas ça. Mais ce milieu-là, je le connais bien. J'ai vraiment essayé toutes les pistes, toutes les portes. Sauf que il y a rien, voilà. C'est-à-dire que pour les gens qui effectivement ont fini, on va dire, leur vie professionnelle, à part l'aide alimentaire, hein, qui est très bien, enfin voilà, je crache dans, si je peux me permettre, dans la soupe.
Vous y avez droit, hein, en plus.
Oui, mais à part ça, il y a pas d'aide. Alors en plus, bon, on avait un système qui était pas trop mal. Qui avait été fait, où on pouvait avoir la possibilité, quand on était précaire, d'avoir des abonnements EDF et gaz beaucoup moins chers. Le président actuel l'a supprimé à son arrivée et a remplacé ça par le chèque de 150 euros. Sauf que ce chèque de 150 euros, il est que sur un des deux, gaz ou électricité.
D'accord.
Alors qu'avant, en plus, on avait des abonnements préférentiels, on va dire. C'est-à-dire que le kilowattheure, on payait vraiment beaucoup moins cher. Et en fait, les factures étaient beaucoup moins chères, puisqu'on payait l'abonnement moins cher. Et le système faisait qu'on s'en sortait mieux que ce chèque unique de 150 euros, en fait. Donc, ça, c'est dommage. On avait un truc.
Moi je pense
bien.
Vraiment, on va être obligé de conclure maintenant, Valentine, je pense vraiment que vous devriez faire un bilan avec une assistante sociale et voir comment vous pouvez être accompagnée. Parce que je pense qu'en lui révélant ce que vous faites pour vous en sortir, ça devrait quand même éveiller l'attention des pouvoirs publics, hein, de ce qu'elle représente.
J'ai du mal à le verbaliser. C'est-à-dire que
c'est normal. C'est normal.
Même auprès de mon médecin généraliste, hein, c'est quelque chose que j'ose pas le dire, et maintenant j'ose plus le dire parce que dès que je le dis, les gens en face se ferment. Donc c'est vrai que d'arriver, même en parlant à mon assistante sociale, je suis pas certaine d'arriver à en parler, quoi. J'ai
Ouais.
C'est un peu comme si c'était une maladie honteuse, quoi. Enfin,
je comprends.
Quelque part, voilà.
Mais en tout cas, pour recevoir de l'aide, il va bien falloir en passer par là, à mon avis. Hein, ben, réfléchissez-y, okay. Hein.
Oui.
Quand même.
Okay. Parce que. En tout cas, merci de m'avoir écouté.
Je vous en prie, je vous en prie.
Et puis voilà. Donc.
Courage à vous.
C'était juste un petit témoignage. Merci.
Oui, mais un petit témoignage, mais un témoignage qui pèse en émotion, parce que ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal que vous viviez une situation comme celle-ci.
Et le problème, c'est que je suis pas la seule. Encore, je suis
pas
la seule.
Bon, c'est sûr, c'est sûr.
On serait quelques-unes par-ci par-là ou voilà. Mais le problème, c'est qu'on devient de plus en plus nombreuses dans cette catégorie d'âge, en tout cas.
Mm-hmm.
C'est ça surtout. Bon, bah, merci en tout cas pour votre écoute.
Je vous en prie.
Bonne soirée à tout le monde, ainsi qu'aux auditeurs.
Et courage à vous.
Merci pour leurs conseils. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1. Olivier Delacroix.
Il est minuit 14 sur Europe 1 et nous accueillons Marie-Vonne au 39-21. Bonsoir Marie-Vonne.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez ?
Ah oui, je vous entends très bien, oui.
Bon ben voilà, moi je vous appelle pour quelque chose qui me mine depuis des années.
Oui.
Voilà, j'ai été mariée, je me suis mariée, je regarde les dates parce que je ne me rappelle plus. Je me suis mariée le 27 mars 1971.
Oui.
De ce mariage est né deux enfants, un normal et l'autre qui est né handicapé, très grave, qui ne devait pas vivre d'ailleurs. Et au bout de 22 ans de mariage, donc j'ai tout arrêté, mon travail, pour m'occuper de cet enfant que j'ai gardé à la maison, paraplégique, hydrocéphalie, enfin, tout ce que peut avoir un enfant qu'on n'aurait pas dû laisser vivre à la naissance. Donc ça,
oui.
C'est pas mon médecin. Et mon mari faisait des déplacements, donc j'avais fait le choix de le suivre. Avec un but bien précis, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté en étant avec lui. Donc on vivait sur son salaire et on mettait les déplacements de côté, ce qui nous a permis de mettre de l'argent de côté, de faire une maison.
Mm-hmm.
Ça allait très bien, donc on a passé 22 ans de vie commune sans aucun accroc. Il n'y avait qu'un gros hic, c'est que ma belle-mère ne pouvait pas me voir. Donc elle a tout fait pour foutre notre ménage en l'air. Et elle y est arrivée. C'est-à-dire que mon mari a perdu son travail. Il n'a plus jamais retravaillé. Il ne cherchait pas de travail, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai repris le travail, plus la maison, plus les enfants, plus... Et au bout d'un an, bah, j'ai pris un malaise au travail. Et on m'a ramenée chez moi. Donc, j'ai fait une très, très grosse dépression.
Mmh.
Il faut savoir que, à la suite de ça, vu qu'il ne cherchait pas de travail et que moi, j'étais à bout... Parce que j'ai quand même patienté plus d'un an pour lui dire « tu te bouges, tu te lèves et tu vas chercher du travail, il ne va pas venir te chercher dans ton lit ». En plus, il ne faisait rien du tout, hein, ni tombe la pelouse, rien. Mais
il a fait une grosse dépression, votre mari.
Dépression, je suis tout à fait d'accord.
Mm-hmm.
Mais vous savez, j'ai donné autant que lui, hein, parce que je sais faire le béton, j'ai beaucoup participé à tout. Et il s'est trouvé que ben, moi j'en ai eu marre aussi, et un jour je lui ai dit « tu te lèves, tu vas chercher du travail ou je m'en vais ». Et il m'a répondu, ben, si tu veux partir, tu te casses, la porte n'est pas fermée. Et avec, j'ai un caractère bien trempé, disons, je sais ce que je veux, je me bats pour l'avoir et je l'ai. Et donc, je suis partie avec mes deux enfants. Et alors là, les ennuis ont commencé. Donc, je suis allée voir, je ne sais pas pourquoi, un maire qui n'était pas le maire de notre village. Ce maire a compris ma détresse, donc il m'a trouvé un appartement, il m'a trouvé des meubles, il m'a aidé beaucoup.
Mmh.
Moi, j'ai continué mon travail et ça se passait à peu près bien. Et puis, ma belle-mère est rentrée de vacances. Alors là, ça a été le chaos complet. Alors, des scandales, des insultes, des poursuites en voiture. Enfin, je ne pouvais plus sortir de mon travail sans être accompagnée par une collègue qui me raccompagnait jusque chez moi. Je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus rien faire. Il m'insultait. Et je ne me suis jamais opposée à ce qu'il ait plus aucun droit sur ses enfants, puisque... Bon, ben moi, je considère que moi, je suis fille de divorcés. J'ai beaucoup souffert de ne pas avoir connu mon père et ma mère, qui ont refait leur vie chacun de leur côté. Mais les enfants, tout le monde s'en fout. Je crois que les juges Ils ont des solutions très faciles, c'est-à-dire que mon fils handicapé, étant donné que moi j'étais en danger parce que j'ai déposé je ne sais pas combien de plaintes pour poursuite en voiture, scandale sur la voie publique, scandale sur mon lieu de travail, enfin, tout ce qu'il a pu me faire, il me l'a fait, avec témoins. J'ai même été battue en pleine place à Vienne, ça se passait aux alentours de Vienne à l'époque. Et bon, j'ai des témoins, j'ai des gens qui se sont qui ont été spontanément au commissariat pour dire j'ai porté secours à une dame, son mari la frappait, enfin bon, j'ai tout essayé, puis j'en ai eu marre, j'ai voulu couper les ponts. Mais sans lui interdire de voir ses enfants. Et mon fils aîné a commencé, bon, mon fils aîné avait 19 ans à l'époque, et il a commencé à faire des conneries, on va dire, qu'il a commencé à piquer des trucs à l'école, mais des petits trucs bénins, bon, je faisais ce que je pouvais en y voir Jean Poche, parce que le père n'a jamais voulu participer. Et donc, on est passé en jugement, donc on a eu l'autorisation de vivre séparément avec l'accord du tribunal. Bon, moi, j'avais l'autorité parentale seule de mes enfants, mais étant donné que mon fils aîné était majeur, puisqu'à l'époque, ils étaient majeurs à 18 ans, vu qu'il faisait énormément de bêtises, c'est-à-dire des vols de voitures, des vols, enfin, il me les a toutes faites, puisqu'il me venait dessus, enfin, devant la police, c'était vraiment devenu invivable. Mais j'avais pas compris qu'il y avait la belle-mère dessous. Donc, au départ, je me disais, il accepte pas le divorce. J'avais beaucoup des conversations avec lui. Ouais. J'ai envisagé aussi qu'il pouvait être jaloux de son frère parce qu'on était très fusionnels tous les deux. Et comme ils avaient 4 ans d'écart, j'ai eu beaucoup de moins de temps à lui donner parce que son frère me demandait énormément de temps. Un enfant handicapé, paraplégique, incontinence urinaire et parfois des séjours à l'hôpital. Donc, je pouvais pas être partout. Hein. J'ai que deux bras et deux jambes. Et j'ai décidé de... Ben, la dernière connerie qu'il m'a fait, il avait piqué une voiture. Et j'en ai eu marre, j'ai appelé son père, j'ai appelé les flics, et je l'ai fait ramener chez son père. Alors il s'est plaint en disant que je l'avais mis dehors, ce qui est complètement faux. Et j'ai conservé la garde de mon fils Ludovic handicapé.
D'accord.
Et Ludovic était très heureux de cette situation. Parce que pour mon gamin, il a découvert quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir avec son père, c'est-à-dire la relation avec des petits copains qui venaient me le chercher pour l'emmener voir le foot, pour... Enfin, il avait une vie pratiquement, on va dire, normale. Et il faut savoir que Ludovic, c'était un petit garçon qui était... Moi, je dis, c'est pas un enfant, c'est un ange que j'ai vu. Parce que malgré son handicap, il le prenait toujours bien. Maman, laisse faire, ils n'ont rien compris... bon, il avait une bosse en dos, un spina, c'est important. Donc, moi, je m'avais fabriqué un petit maillot de bain, un peu comme un petit maillot de danseuse, pour que, justement, on ne voit pas cette grosse cicatrice. Et les gens curieux à la piscine, parce que je vais faire apprendre à nager, j'ai essayé au maximum de lui imposer une vie normale. C'est-à-dire, en me disant, t'es pas éternel, un jour, il va falloir qu'il se débrouille toute seule. Et j'ai obtenu, doucement, je lui ai fait l'école pendant 2 ans, parce qu'on n'en voulait pas dans des écoles normales, et moi, je ne voulais pas le mettre dans un centre d'handicapés. Et puis, bon, ça se passait très, très bien. Et puis, alors, la belle-mère a commencé à venir faire du scandale à mon lieu de travail, donc j'ai eu un choix à faire, où je changeais de poste et j'avais moins d'intérêt financier, on va dire, ou alors on me mettait à la porte, mais en me donnant des recommandations pour que je retrouve un travail ailleurs, ce qui ne me convenait pas du tout. Alors j'ai déménagé, je me suis rapprochée de mon travail, n'ayant plus besoin de ma voiture, parce qu'il me suivait tout le temps, donc je ne savais plus conduire en regardant devant, je regardais toujours dans le rétro, il a passé son temps à me suivre. Et j'ai fait je ne sais pas combien de courriers au juge d'enfants, qui a décidé effectivement que j'étais en danger, et elle m'a imposé à placer mon fils dans un centre d'handicapés. Sur le coup, j'ai dit c'est peut-être la solution, parce que Ludovic c'est un petit garçon qui s'adaptait très bien. Je me suis dit, il aime la compagnie, il n'aime pas être seul, donc peut-être que ça peut marcher. Résultat, ce que je n'avais pas prévu, moi, c'est que l'école où il a été envoyé, c'était la Fondation Richard à Lyon, était à côté de chez ma belle-mère. Alors, je n'avais pas du tout prévu qu'elle allait faire du scandale, qu'elle allait... Enfin, elle s'est imposée en tant que grand-mère.
Oui.
Et tout ça, ça s'est passé derrière mon dos. Et, bon, il avait été condamné par le tribunal à une pension alimentaire pour son fils, parce que moi, l'allocation d'invalidité... de mon fils a été reversé à l'école. C'est-à-dire que moi, je n'avais plus aucun moyen pour l'assumer. Donc, quand je l'ai mis dans cette école, on m'a demandé un trousseau. On m'a demandé des tas de choses. Enfin, ce que j'ai fait, j'avais beaucoup d'amis à l'époque qui m'ont prêté de l'argent en me disant « Tu nous le rendras quand tu pourras. » pour pouvoir assumer ce trousseau qu'on me demandait dans cette école, pour assumer la cantine, parce que n'habitant pas Lyon, je payais plus cher que les autres. Enfin bon, il y avait plein de choses comme ça. Et cette pension alimentaire, il a été condamné à 600 euros par mois, son père. 600 francs par mois, c'était des francs à l'époque. Ouais. Donc il a été condamné à 600 francs par mois, qu'il n'a jamais payé. Alors pour pas qu'on puisse le saisir, il donnait plus ses feuilles d'arrêt maladie, parce qu'il n'a jamais retravaillé depuis. Il donnait plus ses feuilles d'arrêt maladie, donc je suis restée exactement. Le jugement a été prononcé le 19 décembre 91. Il n'a pas payé pendant un an. Moi, j'ai tout essayé avec un huissier, avec les allocations familiales. On ne pouvait pas le saisir parce qu'il ne donnait plus ses feuilles d'arrêt maladie, donc il n'était pas payé. Et la question que je posais au juge d'enfants, je me disais, comment je fais? Moi, il faut que j'achète des couches, il faut que je paye l'école, il faut que je paye le... Je lui donnais une carte téléphonique. Enfin, j'avais des frais par rapport à cet enfant. Et donc, il n'a pas payé donc jusque de janvier 92 à novembre 92. Et puis là, j'ai mis un huissier dedans, qui ne m'a pas lâché, qui m'a vraiment aidé. Et là, au mois de décembre 92, j'ai reçu 900 euros. Après, donc, il me devait encore 6 300 euros pour cette année seulement 91. Après, il a commencé à ne plus payer du tout. Alors, il payait un mois, après il ne payait plus, il repayait un mois, il ne repayait plus. Et ça a duré comme ça jusqu'en 94. Donc, j'avais mon fils à charge, les écoles. Vous savez, quand ils font des voyages, la solution, elle était toute simple. Soit je pouvais payer le voyage de Ludovic, qui à l'époque était très cher, je trouvais. Enfin, je regardais les papiers. Alors, c'était des 300 euros pour une semaine. Mon fils a été ébouillanté sous la douche parce qu'il y avait un problème au niveau... Bravo, la DAS qui donne des accords pour envoyer des enfants en classe verte ou en classe de neige. Alors pareil, là, il faut le matériel aussi. Et il y avait un problème de chauffage d'eau. Donc, il fallait que j'accuse l'éducatrice pour que je puisse avoir un recours, ce que, bien entendu, je n'ai pas fait. Donc, si vous voulez, mon gamin avait une plaie très béante hein, sur toute la jambe, du talon jusque derrière la jambe, hein, derrière la cuisse, puisqu'elle l'avait assis dans la douche pour essayer de régler le chauffage de l'eau. Et Ludovic ne sentant rien, il n'a pas eu mal, donc elle ne s'est pas affolée. Puis on s'est aperçu qu'il y avait une grosse blessure. Et ça a été comme ça tout le temps, c'est-à-dire quand il était hospitalisé, et Dieu sait si c'était souvent, il a été opéré plusieurs fois. Il avait une valve qui partait du cerveau et qui était reliée à la veine cave d'un cœur. Et donc, à chaque fois, je trouvais le père sur mon chemin, qui me suivait en voiture. Il avait une grosse voiture. Moi, j'avais acheté une vieille voiture d'occasion, donc qui se traînait sur la route. Si vous voulez, le gamin était toujours au milieu de tout ça. Et lui, il en avait marre. Il en avait tellement marre que la juge d'enfants a décidé de le déplacer. C'est-à-dire qu'en un mois, elle l'a changé 4 fois d'endroit où il était censé loger et être pris en charge, pas complètement, mais si vous voulez, pour l'éloigner du père. Elle avait trouvé que cette solution, au lieu de punir le père, qui ne respectait aucun jugement...
C'est votre enfant qui a pris, voilà.
C'est mon gamin qui a pris. Alors Ludovic a vécu un enfer. Ludovic, sa valve se bouchait très régulièrement. Ludovic ne voulait plus que je vienne le voir à l'hôpital parce qu'il savait que son père me prenait en charge sur la route. Et Dieu sait si j'ai eu des témoins. J'ai même des gens qui m'ont porté secours en pleine place de Vienne parce qu'ils me tapaient dessus et que... Voilà.
Mais vous avez porté plainte contre lui pour tout ça ?
J'ai porté plainte, monsieur. C'est pour ça que je vous appelle. Parce que franchement, j'écoute vos émissions depuis très longtemps. Moi, j'ai 75 ans aujourd'hui. Je suis très malade aujourd'hui. J'ai un cancer qui vient de me tomber dessus, là. Et je ne veux pas partir, comme je dis. Je veux bien mourir, je m'en fous. Mais je ne veux pas partir avec l'idée que mon fils pense que je l'ai abandonné. Parce que ma belle-mère s'est chargée de ça. En m'empêchant de le voir, en se mettant à travers, soit elle, soit son fils, ils m'ont déménagé mon appartement. Ils m'ont volé 2 fois ma voiture. Ils me les ont toutes faites. Il n'y a pas eu de partage de la communauté. Alors je vous explique, c'était une maison, style provençal, à Saint-Alban-du-Rhône, pas très loin de Vienne, sur un terrain de 1000 m². Donc là, j'ai rien eu du tout. Il n'y a pas eu de partage de la communauté du tout. On avait acheté avec le... J'avais eu un accident de voiture, moi, avec l'argent de cet accident, on avait acheté un terrain de 5 200 m² dans l'Ardèche, à Saint-Remèze exactement, où moi j'étais arrivée au bout de 4 ans à avoir le permis de construire. Il a tout laissé tomber, il y avait des amandiers, il y avait de la lavande, il a tout laissé tomber parce que c'est pas un, vous savez, on dit il a un poil dans la main, lui c'est un piquet qu'il a dans la main. Mmh. Donc il a jamais retravaillé, il a jamais assumé son fils, mais ce que je savais pas, c'est qu'il me l'a laissé à ma charge sans payer la pension alimentaire, de toute façon très irrégulière. Je paye un mois, je paye pas deux mois, je paye un mois, je paye pas deux mois. Vous savez que au niveau des huissiers, quand on veut faire la règle de la pension alimentaire, si vous n'avez pas de salaire, on peut pas vous saisir. On peut pas vous saisir. Si vous êtes en arrêt maladie, c'est ce que je disais, il n'a pas d'argent pour payer la pension de son fils, mais il en a pour mettre de l'essence dans sa voiture. Il avait une grosse voiture à l'époque. Donc, j'ai tout laissé. Un jour, la colère m'a pris, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu reviennes. Non, je ne reviendrai pas. Tu m'as laissé battre par ta mère, tu m'as laissé insulter, tu m'as laissé traîner dans la boue. Je ne reviendrai pas. C'est clair, c'est défini. Alors, ils m'ont déménagé de l'appartement. Après, ils m'ont volé la voiture deux fois. Je m'en foutais complètement. Je me suis toujours débrouillée parce que j'ai beaucoup de volonté. J'ai un tempérament très fort. Et je me disais, il faut que tu te lances un boulot parce qu'il y a comme ça que tu vas t'en sortir. Et c'est ce que je faisais. Je faisais beaucoup d'heures de travail. Je faisais beaucoup d'heures supplémentaires. Et j'arrivais quand même, malgré tout, à boucler les fins de mois. Et alors, il a attendu, il m'a fait flic comme ça pendant jusqu'à la majorité de mon fils. Et deux mois avant la majorité, il l'a enlevé à l'hôpital. Et le terme... Alors, évidemment, moi, l'hôpital a porté plainte, l'école a porté plainte, et moi aussi, pour enlèvement d'enfants. Mais le temps que ça passe au tribunal, eh bien, il était devenu majeur, Ludovic. Et ils l'ont tellement manipulé. J'ai des courriers, moi, je les ai relus, ça me met les tripes à l'air, parce que mon gamin, il supplie la juge d'enfants de le laisser venir avec sa maman, qu'elle, elle était avec ses enfants tranquille, que lui, elle l'éloignait de plus en plus loin, elle l'avait envoyé à Gien, dans un hôpital, sans que je sois prévenue. Il y a eu plein de choses
et,
comme
et
ça.
Et vous ne saviez pas où était votre fils durant tout ce temps ?
Je ne sais pas où était mon fils. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas où il est. Je ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort.
C'est fou ça. Vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps, Ludovic, là ?
Et monsieur, il avait 18 ans, vous faites le calcul. Il est né en... je ne me rappelle même plus, tellement je suis fatiguée. Il est né en 60... je ne me rappelle plus, vous voyez. Je suis tellement crevée, là, crevée. Ça me bouffe, ça m'empêche de dormir. Il est né le 12 mai 77.
Alors, donc, il a 43 ans.
Voilà. Donc, de partir, parce que je sais que j'ai un cancer qui est vicieux, je dois me faire opérer le 21, j'ai été déplacée, ça fait 4 fois qu'il recule, mais enfin bon, là je me suis un peu fâchée, donc ça y est, ils me prennent le 21, j'ai un cancer de la vessie, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, et je me dis, tu vas pas partir en sachant que ton fils pense que tu l'as abandonné.
Mais
parce
et,
que
et ce qui veut dire que... Mais vous êtes en droit de savoir où est votre fils, vous...
Assurez-vous que je ne sais pas où il faut m'adresser, parce que c'est marrant. Moi, vous savez, j'étais une petite fille, je suis une petite fille de divorcée. Hein. On était 4 à la maison. On ne se parle pas, on est jaloux les uns des autres. Moi, je me suis montée toute seule, j'ai été dans des cours à la FPA, j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai été faire la plonge. J'ai fait plein de choses pour pouvoir gagner de l'argent, mais toujours honnêtement. Et pour avoir la paix, j'ai été obligée de me remarier. Je me suis remariée parce que même la police ne voulait pas me protéger. Ça les faisait beaucoup rire, les flics. Parce que j'en ai 2 ou 3, là, que j'ai en mémoire. Il ne faut pas que je les trouve sur ma route, ceux-là, parce qu'ils venaient dans l'incorrection totale. Alors, c'est vrai que je suis soi-disant une très jolie femme. Je ne sais pas, moi, je me trouve banale, mais bon, d'après ce qu'on me dit, je fais 10 ans de moins que mon âge, donc personne ne veut croire que j'ai 75 ans. Si ça leur fait plaisir, moi j'ai tout ce qui va avec au niveau maladie, donc je m'en fous complètement. Mais je ne peux pas m'en aller, je ne peux pas aller à l'hôpital en me disant tu ne vas peut-être pas t'en sortir parce que je fais des hémorragies énormes, j'ai fait plusieurs comas. Je ne peux pas partir en pensant que mon gamin pense que je l'ai abandonné.
Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, Marie-Vonne, il vous suffit de vous rapprocher de la juge du parquet qui a commencé à prendre ses décisions. Ce sont des décisions des affaires familiales, ça.
Eh bien, voilà, c'est justement. Mais moi, j'avais tellement, j'avais le souci de faire tourner la maison, de donner de quoi manger, de lui donner, quand il avait des classes vertes, tout ça, parce que c'était très cher à l'époque. Il fallait compter 300 francs pour, 4-5 jours de vacances.
Oui, mais bon, Marie-Yvonne, il faut vraiment que vous vous rapprochiez, que vous appeliez déjà le parquet, en fait, le tribunal donc du département où ces décisions ont été prises pour Ludovic. Et que vous racontiez, en tout cas, vous racontiez votre histoire brièvement en disant que vous cherchez votre fils qui a été placé il y a longtemps, que vous ne savez pas où il est, parce que c'est absolument anormal que vous ne sachiez pas où il est. En fait, vous avez perdu sa trace à partir du moment où il a été placé à Gien.
Où il a été enlevé par son père à l'hôpital de Brousse à Lyon.
D'accord. Et donc, son père a disparu dans la nature. Vous ne savez plus où il habite, lui ?
Il est dans la maison. Il est dans la maison. Et donc, moi, j'ai toujours des contacts avec les voisins, des contacts téléphoniques, parce que je ne m'amuserai pas à y aller, parce qu'il va me prendre en chasse. J'ai essayé une fois d'y aller avec des amis. Il nous a pris en chasse. J'ai fait un malaise diabétique dans la voiture tellement j'ai eu peur. Vous voyez, j'avais mis non seulement ma vie en danger, mais la vie...
Si vous voulez retrouver Ludovic, il faut que vous vous adressiez directement... De toute façon, Ludovic est dans une situation de handicap.
Oui.
Vous avez donc un semblant de droit parental. Et il faut que vous fassiez valoir
non,
ça.
J'avais l'autorité parentale seule.
Eh bien alors, vous l'avez toujours, l'autorité parentale.
Et alors ça, c'est justement, c'est pour ça que je vous appelle, parce que j'ai contacté un conciliateur de justice et il était outré, parce que j'ai toutes les preuves de ce que je dis. Moi, j'ai des tas de copies, des tas de... Bon, la maison, je m'en fous. Je lui ai donné la maison devant le notaire. Je lui ai dit, tu la veux, la maison ? C'est pas un problème. On a été chez le notaire, et le notaire a tellement eu peur, je crois que si il lui avait dessiné, moi, son arrêt de mort, je crois qu'elle l'aurait fait. Elle n'avait jamais vu ça. Mon fils aîné m'a craché en pleine figure. Vous vous rendez compte ? Il m'a craché en pleine figure, manipulé par la belle-mère, j'en suis tout à fait consciente.
Mais votre belle-mère, elle est morte aujourd'hui ou pas ?
Elle est morte, oui. Et je peux vous dire que moi, je suis toujours en relation avec les oncles et les cousins de mon ex-mari.
D'accord, ils vous disent quoi, eux ?
Ils m'ont fait des courriers, mais tu sais pas où t'as mis les pieds, mais fallait pas te marier avec lui, elle est folle.
D'accord, enfin, mais bon, ils ne peuvent pas vous renseigner où est votre fils ?
Non, parce qu'il a coupé, les ponts. Sa mère lui a fait couper les ponts avec toute la famille. Ils sont tout seuls. C'est-à-dire qu'ils n'ont personne. Les voisins, ils parlent à aucun voisin où j'habite. Il y a quand même 17 maisons dans le lotissement où on habite. Moi, j'ai des amis encore, je les appelle. On ne voit pas Ludovic. On ne sait pas ce qu'il est devenu. La seule chose que j'ai appris, c'est qu'un jour, le père et Jérôme, mon fils aîné, s'est battu avec son père dans la pelouse et que les gens n'osaient pas intervenir parce que mon fils est ceinture marron du judo. Et croyez-moi, il ne s'est pas laissé faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas le savoir. Mais moi, je veux. Et moi, le conciliateur que j'ai vu, il m'a dit, de toute façon, l'autorité parentale sur un enfant handicapé, vous aviez l'autorité parentale seule. Il n'a jamais voulu l'assumer. Il m'a dit, vous écrivez au tribunal ce que vous êtes en train de me dire et vous demandez qu'on vous donne des nouvelles, même s'il ne veut plus vous voir.
Bien évidemment, comme vous avez l'autorité parentale, donc il faut que vous fassiez ce courrier et que, et que vous fassiez courrier en recommandé, hein, doublé de mails. Vous envoyez des mails aussi ?
Non, pas trop, parce que là j'ai des problèmes de vision, j'ai des tas de problèmes de santé, là c'est en train de tout
d'accord, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut vous aider à envoyer des mails ? Parce que c'est toujours bien d'envoyer des mails parce que ça laisse une trace.
Ah d'accord. Alors envoyez un mail, je vais le noter si vous voulez.
Mail doublé d'une lettre, vous savez, d'une lettre en recommandée avec accusé de réception.
Ok.
Parce que, voyez-vous, oui. si vous écrivez au tribunal, ils sont obligés de vous répondre et rapidement. Parce que là, il est peut-être en situation de danger, Ludovic, il est peut-être seul.
C'est ça qui me fait peur, parce que moi, Ludovic, je lui ai fait... On n'en voulait pas, vous savez, moi, le village où on habitait, c'était un tout petit village, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien. Mais si vous voulez, Ludovic, on n'en voulait pas à l'école. Il y avait quelqu'un qui avait fait passer le bruit, qu'il sentait mauvais, parce que bon, il avait des poches urinaires, enfin, c'était pas vrai, mais bon, il y avait quelqu'un qui n'en voulait pas, donc moi, j'ai décidé de lui faire l'école. Et je lui ai fait l'école pendant 2 ans, avec le CNED, vous savez, les cours par correspondance.
Le CNED. Oui.
Alors, tout se passait bien, mais le problème, c'est que Ludovic, c'était quelqu'un de très agréable. C'est un ange que j'ai mis au monde, là, je vous assure. Et lui, il me disait, moi, je veux bien apprendre à lire, parce qu'il avait compris que la lecture, ça pouvait être une distraction. Je lui disais, tu vois, quand on va à la plage, regarde, il y a des heures, ils lisent. Oui, il avait compris ça. Faire des jeux aussi. Mais par contre, pour compter, lui, il savait que me dire, maman, tu fais un chèque. Voilà, il n'appelait pas la... Comment je pourrais vous dire? La valeur de l'argent. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai jamais pu lui apprendre à compter. Donc, ça n'a jamais été fait par l'école, la Fondation Richard non plus, parce qu'il s'en fiche complètement. Hein. Et résultat, il s'est trouvé que mon fils a demandé à ce que ça soit son frère qui soit son curateur. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose? Comment voulez-vous qu'un gamin handicapé à ce niveau-là puisse gérer une fortune, puisque moi j'ai eu des amis qui venaient me voir, me disaient « Oh, t'as une jolie bague ou... » Maman, on donne ton chéquier, on va lui en acheter une. Vous voyez, c'était un gamin qui donnait tout. Ouais. Pour les Noëls, il demandait à son kiné, il lui demandait des poupées en chiffon. Puis un jour, je dis, mais enfin, bon sang, Ludovic, t'es un garçon, tu vas pas. Mais maman, c'est pas pour moi, le kiné, il a eu une petite fille. Vous voyez, donc il voulait demander des jouets pour offrir à la petite fille de son kiné. Ouais. C'était un amour, ce gamin, et tout le monde l'aimait. Partout où j'allais avec lui, tout le monde l'adorait.
Bon, ça, mais ça, là, ça n'est absolument pas normal que vous ayez même perdu sa trace. C'est fou, cette histoire.
Alors il m'a tout pris, hein. J'ai fait une donation, tu veux tout garder, mais je lui ai fait quand même une petite vacherie parce que j'ai exigé à ce que ça revienne qu'à mes enfants. Il a le droit d'habiter la maison, il doit l'entretenir, mais il n'a pas le droit ni de la vendre ni de la louer. Donc,
il en a l'usufruit, en fait, c'est ça?
Pardon?
Il en a l'usufruit.
Voilà, exactement. Et ça l'embête un peu parce que cette maison, elle n'est pas très bien placée d'ailleurs. Elle est face à la centrale de Saint-Albert-du-Rhône et je peux vous dire que celui qui l'achète, il est fou. Hein. Parce qu'avec tout ce qui se passe, moi, ça serait maintenant, je l'aurais pas construit là. Je voulais pas la construire là, d'ailleurs. Mais c'était pas trop loin de Lyon où il y avait sa chère maman qui l'appelait le Niège parce qu'elle pouvait pas le saquer. Et c'était vraiment le dindon de la farce.
Elle était méchante, cette femme, dites donc.
Elle était très méchante. Elle était très méchante à tel point que moi, quand je me suis mariée avec mon mari, avec... le papa de Ludovic, je lui ai fait refaire l'accord avec un de ses oncles qui a joué pendant longtemps, parce que sa mère était divorcée aussi, qui a joué pendant longtemps un peu le rôle du père, parce qu'il était paysan, donc elle l'envoyait ses enfants chez les cousins, chez les oncles, tout ça. Et bien, elle a trouvé le moyen d'aller en procès avec ses fameux oncles après. Et elle avait aussi un cousin qui était directeur de l'hôpital Lyon-Bérard, qui m'a reçu chez lui pour un Noël, parce que moi, j'ai gardé de bons contacts avec ces gens-là. Eh bien, elle ne l'acceptait pas, mais il faut voir ce qu'elle lui a dit au téléphone. Tu la mets sur le trottoir, mais je vous assure, elle m'a traînée dans la boue, mais et j'avais sa famille de mon côté. Et alors, je lui ai fait retrouver son père, parce que son père, tellement elle lui en avait fait, son ex-mari, mon beau-père s'est exilé en Suisse. Elle l'a retrouvé, elle a mis 8 ans, elle l'a retrouvé. Et moi, je lui ai fait retrouver son père. Son mari ne connaissait pas son père, j'écoute. Moi, je m'en occupe et je lui ai fait rencontrer, et à ce nouveau son oncle Roger, qui considérait comme son père, je lui ai fait rencontrer son père qui habitait en Suisse. Et je me rappellerai toute ma vie, quand mon beau-père, je l'ai eu au téléphone et que je me suis présentée, je lui ai dit qui j'étais et pourquoi je voulais le voir. Il m'a répondu, ça m'a marqué, ça. Il m'a dit, je veux bien l'accepter pour vous, mais pour lui, je ne ferai rien. Et ce qui me choquait, c'est quand on allait en Suisse, parce qu'on avait de très bons rapports avec mes beaux-parents, enfin, mon beau-père était remarié, hein, donc de très bons rapports, on les recevait, ils venaient, on allait chez eux. Et ça, ma belle-mère, je ne sais pas comment elle le savait. Et chaque fois qu'on allait chez mon beau-père, elle suivait mon beau-père jusqu'à la frontière. Alors, c'était des scandales. Enfin, c'était une grosse maladie, il aurait fallu la faire soigner, cette femme. Mais bon, et si vous voulez, ça ne me l'a pas pardonné non plus. Que je lui ai fait refaire l'accord avec son père, que je lui ai fait refaire...
Bon, de toute façon, c'était visiblement une mauvaise femme. Isabelle, au 739-21, Valentine, Marie-Vonne, pardon, vous dit... je vous appelle Valentine, moi ça va beaucoup mieux. Isabelle vous écrit au 739-21 que s'il y a eu un suivi de Ludovic chez le juge des enfants, vous pouvez écrire en RAR au juge des enfants pour demander... un rendez-vous au tribunal, car vous avez le droit de consulter le dossier de votre fils. Donc vraiment, il faut vraiment le faire, hein, Marie-Vonne.
Ah mais je vais le faire parce que c'est en train de me tuer, ça. Ça me bouffe la vie. Vous savez, j'ai dit à votre collègue, là, quand j'ai appelé, qui m'a rappelé pour me demander comme si je pouvais attendre, parce que c'était qu'à 11h du soir, je lui ai dit oui. J'ai dit mais ça ne me dérange pas parce que j'arrive plus à dormir. Dès que je vais dans mon lit, que je me couche, je vous assure... j'ai l'impression que mon fils m'appelle au secours. Et ça, ça fait des années que ça dure. Et ça m'empêche de vivre, ça.
Je comprends.
Je me suis mise dans la solitude. Je suis bien toute seule. Bon, j'ai 2-3 amis, mais vraiment des amis qui me portent haut. Parce qu'en ce moment, je le prends mal, ce coup de cancer là, que j'ai pris dans la figure. Croyez-moi, je n'ai pas trop bien apprécié. Surtout de la façon dont ça a été dit. Mais je me dis, tu ne vas pas partir. Ce n'est pas possible que tu partes comme ça, avec ton gosse qui va penser que tu l'as abandonné. Mais vous vous rendez compte, j'ai sacrifié ma vie pour lui. C'était pas un sacrifice, mais j'ai tout abandonné. Je suis retournée à l'école à 20 ans pour apprendre un métier. J'ai tout fait pour essayer d'évoluer, pour qu'il soit fier de moi. Et puis je me dis maintenant, il est persuadé que je l'ai abandonné. Et le fait que j'ai découvert qu'il était sous curatelle à sa demande et qu'il avait demandé à ce que soit son frère curateur... Alors, je vais très loin, moi, dans mes suppositions. Mais
c'est normal, vu en plus que votre deuxième enfant, c'était pas le roi de l'honnêteté, qu'il faisait plein de bêtises. Vous pouvez vous douter qu'il a pu profiter de son frère.
Devant les flics, il lui a dit « Tu aurais dû crever à la naissance, t'es un parasite de la société, mon fils. » Ludovic était en larmes, et ça s'est passé devant les gendarmes de Roussillon. Je sais pas si vous vous rendez compte, la haine qu'il y a. Alors, j'ai cherché à comprendre pourquoi il y avait cette haine. Et j'ai compris... Parce qu'on était très fusionnels avec Jérôme, avant que son frère naisse. Et je me souviens, quand son petit frère est né, bon, il était très beau, mais il avait le crâne déformé, puisqu'il y avait une hydrocéphalie. Hein.
Oui, oui.
Une petite pêche, mais vraiment un bébé adorable, pas méchant du tout, vraiment rien à reprocher. C'est ce que je disais, j'ai deux noms, moi. J'ai Grincheux et Gracieux. Et tout le monde pensait que Grincheux, c'était Ludovic. Eh ben non, Ludovic, il était toujours content. Quand il voulait quelque chose, maman, tu m'achètes. Tu sais, Ludovic, j'ai eu des frais. Oh, mais maman, tu le marques, et puis quand tu pourras. Un gosse adorable. Et là, je ne peux pas partir. Monsieur Delacroix, je vous ai appelé parce que je sais que vous écoutez les gens. J'écoute très souvent votre émission. Je sais que vous écoutez les gens, que vous les conseillez, que ça apaise. Parce que moi, on a l'air presque de dire que je suis folle et que j'inverse.
Non, mais écoutez, Marie-Vonne, en tout cas, ce soir, vous avez... eu raison de nous appeler, mais vraiment, suivez mon conseil et surtout celui d'Isabelle, notre auditrice, qui vous a conseillé vraiment d'écrire au juge des enfants, puisqu'à un moment, il y a eu un dossier et il y a donc un dossier au tribunal et vous avez le droit de consulter ce dossier vu que vous n'avez pas perdu le droit parental. Donc faites ça et puis donnez-nous des nouvelles, d'accord ?
Promis, je vous tiendrai au courant.
Vraiment, vous savez où nous joindre.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, Marie-Vonne. Passez une bonne soirée. Et bien, tant mieux. Et puis surtout, donnez-nous des nouvelles. Hein.
Je vous promets, je vous tiendrai au courant.
Ok, au revoir, Marie-Vonne.
Merci beaucoup. Bonne soirée, Olivier. Merci beaucoup. Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1. Olivier Delacroix.
Il est minuit 45 sur Europe 1 et nous allons finir cette émission avec Anne qui nous appelle au 39-21. Bonsoir, Anne.
Alors, oui, bonsoir.
Bonsoir. Anne, vous êtes là ?
Oui.
D'accord.
Oui, je suis là.
Anne, alors, je sais que vous avez précisé que vous appeliez des tom-tom, mais vous ne voulez pas dire où exactement, précisément ?
Oui, tout à fait, parce que c'est assez délicat quand même, donc c'est pour ça que je ne veux pas le préciser.
D'accord. Parlez, éloignez-vous un peu de votre combiné, parce que je ne vous entends pas très bien.
Oui, et là, vous m'entendez ?
Voilà, très bien, super. Alors, Anne, vous nous appelez pourquoi ce soir ?
Ben voilà, donc j'ai perdu mon enfant, ça fait bientôt 5 mois. Donc, je ne sais pas les causes. Donc, c'est difficile à expliquer. C'est comme si c'est aujourd'hui que j'ai perdu mon enfant, donc elle était bien, elle n'était pas malade. Elle a eu tout pour réussir. Du jour au lendemain, il m'annonce la mort de mon enfant.
Quel âge avait-elle ?
Elle avait 41.
41 ans, d'accord. vous dites qu'elle est morte, donc dans quelles circonstances, en fait, vous le savez ?
Ben, on l'a trouvée morte. Et puis, bon, ben, il m'a annoncé ça. La veille, elle était avec moi. On a bien un dernier café ensemble. Et puis, le lendemain, elle est partie de la nuit.
D'accord. Donc, la veille, vous étiez avec elle
Oui, elle était avec moi, oui.
D'accord. Et comment allait-elle la veille? Comment l'avez-vous trouvée?
Elle était bien. Elle était un enfant normal.
D'accord.
Pas de trous noirs, pas de stress. Elle discutait avec tout le monde. Elle était bien avec tout le monde.
D'accord. Elle n'avait pas d'angoisse particulière? Vous l'avez trouvée
détendue? Détendue. Donc elle prenait son travail, elle me téléphonait depuis de son travail, depuis sa maison jusqu'à son travail.
Oui.
Elle sortait son travail dans les bouchons. Elle me téléphonait jusqu'à temps qu'elle arrive chez elle.
D'accord.
Et je lui ai dit, bon, elle est partie. Donc comment elle est partie? Personne ne peut comprendre pourquoi elle est partie. Même son enfant ne sait pas pourquoi elle est partie.
Parce que elle a un enfant?
Oui.
Quel âge a-t-il, cet enfant?
Il a 23 ans.
23 ans. Et il vivait avec sa maman ou il vivait dans un autre appartement?
Non, il était en métropole.
D'accord, il est en métropole. Mais il y a bien eu... les gendarmes sont venus constater le décès.
Oui, les gendarmes sont venus, ils l'ont constaté. Ils l'ont dit, c'est un suicide. Mais non, c'est pas possible.
Alors, les gendarmes ont évoqué un suicide?
Oui.
Et pourquoi ont-ils évoqué ça? Est-ce qu'il y a eu une autopsie de réaliser, en fait, qui leur permet de dire ça?
Non. Ils n'ont pas fait l'autopsie. Ils ont fait un examen du corps.
Oui.
Et donc, du coup, moi, j'ai appelé la gendarmerie pour avoir les nouvelles.
Oui.
Et ils m'ont dit le lieutenant n'est pas là.
Le?
Le lieutenant
qui s'occupe, d'accord.
Qui s'occupe de l'affaire, donc il n'est pas là.
Mm-hmm.
Et je lui ai posé la question, tout le monde était entendu, sauf moi, la maman. J'étais pas dans un état pour me poser des questions, parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment mal. Et du coup... là, ils vont m'appeler pour voir comment mon enfant était avec moi. Est-ce qu'elle était bien? Comment c'était? Et c'est inexplicable.
Mais donc
il y a une enquête. Mais il y a une enquête. Il y a une enquête quand même. Il y a un procès quand même qui.
Et éloignez-vous bien de votre combiné, s'il vous plaît, parce que.
Et là, vous m'entendez?
Oui, là, je vous entends. Il y a une enquête.
Il y a une enquête qui est en cours.
Oui.
Et puis, la gendarmerie m'a dit, bon, ben voilà, on n'a pas fini l'enquête.
Non, bah visiblement, oui. Mais est-ce que...
L'enquête est toujours son cours.
Oui, mais est-ce que vous avez des premiers éléments, des circonstances dans lesquelles a été retrouvée votre fille? Est-ce que...
Oui.
Alors, dites-moi...
C'est un de ses collègues, parce qu'on allait travailler, elle ne répondait pas au téléphone.
Oui.
Et quand elle est arrivée, quand son patron l'a appelé, elle ne répondait pas. Parlait avec le GPS, ils ont découvert que sa voiture n'a pas bougé. Et c'est là qu'il a envoyé un de ses employés d'aller voir ma fille. Et donc, il est arrivé, il a ouvert la porte était ouverte. Ils l'ont trouvée par terre, la tête par terre, les pieds à genoux. Il a dû supplier.
Oui, donc vous...
Elle a dû souffrir cette nuit-là, mais je n'étais pas là pour la sauver. Oui.
Vous pensez que votre fille a été assassinée?
Oui.
Oui.
Mais l'enquête, ils sont cool. La gendarmerie m'a dit, on ne peut pas vous donner des nouvelles. Donc, on n'a pas fini. Ouvert tout son téléphone.
D'accord.
On a des éléments nouveaux, mais le lieutenant n'est pas là. Donc, quand il va arriver, il va m'annoncer qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, il disputait souvent. Elle avait un ami, il disputait tout le temps. Le jour de mon anniversaire, il a humilié, il a disputé.
Qui donc? Je n'ai pas compris. Qui l'a disputé?
Elle, avec son ami.
D'accord, avec son ami. Donc...
Oui. Anne. Elle avait quelqu'un.
Anne, elle avait quelqu'un Est-ce que vous soupçonnez, en fait...
Ils n'habitaient pas ensemble. Ils se voyaient assez régulièrement.
D'accord. Et est-ce que vous soupçonnez cette personne? Est-ce que vous pensez que c'est lui qui a pu lui faire du mal?
Je ne sais pas.
Bah, parce que
moi, j'ai su.
Oui.
J'ai su après, moi. Le lendemain, j'ai su vers 18h. La police est venue chez moi. Ils m'ont annoncé la mort.
Oui.
Moi, je croyais qu'elle avait fait un accident. Ils m'ont dit non, c'est pas un accident, c'est plus un suicide qu'un accident. Et du coup, elle avait les pieds par terre, elle n'avait pas de siège. Il n'y avait pas de siège, il n'y avait rien du tout à côté d'elle. Mais je n'ai pas pu partir à l'appart, jusqu'à temps ils ont rendu l'appart, parce que ce n'était pas possible. C'est encore tout douloureux pour moi quand même.
Oui, bien sûr que c'est douloureux, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi on vous a parlé de suicide.
Ben, je ne sais pas. Les filles ont parlé de suicide, mais ils n'ont fait qu'un examen du corps, c'est tout.
Et vous ne savez pas ce que cet examen du corps a donné comme résultat?
Non, les filles n'ont pas donné encore.
D'accord.
Moi, j'étais allée voir la morgue, donc je voulais identifier son corps. Je voulais le voir avant de partir.
Oui. C'était il y a 5 mois maintenant.
Elle est morte le 28 avril.
Le 28 avril. Et donc, depuis le 28 avril, vous n'avez plus du tout de nouvelles des gendarmes ?
Plus de nouvelles. Non. Parce que moi, j'ai pris un avocat.
Oui.
Mais donc, l'avocat, il m'a dit qu'il attend encore le dossier de la gendarmerie. Il attend le dossier et puis bon, ben après, on fait marcher l'affaire.
Combien de temps après le permis d'inhumation a-t-il été délivré pour votre fille, Anne? Combien de temps après elle a été inhumée?
Elle n'était pas inhumée parce qu'ils n'ont pas voulu.
D'accord. Donc,
les juges n'ont pas voulu. Les gendarmes n'ont pas voulu. Ils ont dit qu'il faut l'enterrer. Si jamais il y a quelque chose, il faut les désenterrer et refaire les dossiers.
D'accord. Cela veut dire que donc votre fille n'a toujours pas été enterrée?
Elle est enterrée.
Ah, elle est enterrée. Mais donc,
elle a été... le corps n'est pas... On ne pouvait pas brûler le corps.
Oui, on ne pouvait pas... brûler le corps. OK, mais est-ce que le permis d'inhumation a mis du temps à être délivré?
Non. Ça a délivré de suite après.
C'est quand même très curieux que quand
elle
même...
Elle a resté une nuit à l'hôpital. Et puis après, ils ont donné le certificat de décès, puis voilà.
C'est quand même très curieux qu'il n'y ait pas eu d'autopsie, parce qu'il me semble que dans...
Oui,
lorsqu'un suicide, visiblement, votre fille n'a pas, ne s'est pas pendue, ne s'est pas ouvert les veines, d'accord ?
Non, il n'y a pas de mots. Il n'y a rien du tout.
Donc,
elle n'a rien laissé.
Donc en fait, il aurait dû avoir une autopsie pour être sûr que c'était un suicide. Parce que visiblement, s'ils vous ont parlé de suicide, ils vous ont dit quoi ? Qu'elle avait avalé des médicaments ?
Non, il a dit qu'il y avait un bout de corde autour du cou.
Ah, ils ont retrouvé un bout de corde autour de son cou.
Oui, c'est la corde escalade avec.
D'accord, ok, mais vous ne m'aviez pas dit ça.
Mais elle était à genoux. Oui, mais elle était à genoux.
Elle était à genoux.
Elle avait les pieds qui touchaient par terre.
D'accord, donc vous, ça vous semble totalement bizarre tout ça.
Bizarre.
Bizarre, mais oui.
J'ai du mal à accepter. J'espère un jour, je vais connaître la vérité.
Et vous pensez donc que l'enquête est encore en cours?
Oui, les filles m'ont dit l'enquête est encore en cours.
Ça, c'est certain. Elle n'a pas été clôturée.
Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini, non.
D'accord.
Donc, ils travaillent toujours sur les... Il m'a dit qu'il y a encore un téléphone à ouvrir pour regarder avant qu'ils ont passé à l'acte.
Oui, les appels qu'elle a pu passer avant.
Il a eu un appel vidéo.
Un appel
mais
vidéo.
Les flics n'arrivaient pas. Oui, les flics n'arrivaient pas à ouvrir l'appel vidéo. Mais après, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont pu ouvrir? Est-ce qu'ils n'ont pas pu? Je ne sais pas.
D'accord, d'accord. Je comprends mieux.
Parce que je vis, ben là, je vis dans un nuage.
Oui.
Dans le doute.
Dans le doute. Est-ce que vous avez pu échanger avec son ami?
Non, aucun. Il n'a pas donné de nouvelles. Il n'a pas passé de coup de fil.
Rien du tout.
Jusqu'à présent.
Vous le connaissiez, cet homme? Vous le connaissiez, ce garçon?
Oui, je le connaissais quand même, parce que je le voyais souvent. Parce qu'il était chez ma soeur. Je le voyais régulièrement. Mais
il ne vous a pas donné de nouvelles, en fait, il n'a pas tenu...
Non, personne.
Il était à l'enterrement. Est-ce qu'il était à l'enterrement de votre fille?
Non plus.
Ouais, c'est très curieux, tout ça.
C'est bizarre. Moi, je le trouve bizarre, parce que s'il n'avait rien à se reprocher...
C'est très bizarre comme attitude, bien évidemment. C'est très... Oui, que faisait votre fille dans la vie, comme travail?
Ben, elle était chef commercial.
Oui.
Du coup, elle était chef commercial des emballages.
D'accord.
Même son patron, je le trouve bizarre.
Bah écoutez,
le patron,
Anne,
tenez-nous
au courant, Anne. Hein. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner des nouvelles. Et puis, bien évidemment, je vous souhaite plein de courage dans cette épreuve. Hein.
Oui, ça va être très, très dur, parce que j'arrive pas à en parler. Mmh. Les gens, ils m'en parlent.
Ouais. Ben oui, je comprends.
Et là, moi aussi, je ne peux pas.
Ouais. Je vous embrasse, Anne. Courage à vous.
Merci.
Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Chers amis,
merci,
au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Comme vous le savez, demain, nous sommes vendredi. Cela veut dire que pendant 3 jours, vous allez être avec ma douce amie Sabine Marin à partir de 22h30 ce soir. Et puis, écoutez, profitez bien à partir de demain soir de votre week-end. N'oubliez pas de prendre soin bien de vous, de bien manger, de vous faire plaisir, de bien respirer. Pourquoi pas un petit coup de sport. Et puis, n'oubliez pas qu'ici, on vous aime et que ça continue, la Libre Antenne sur Europe 1, durant tout le week-end. Nous, on se retrouve lundi à 22h30. Salut !